Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, on va ouvrir notre Bible et nous allons faire deux lectures. Voilà, la première lecture, nous allons la faire dans le livre de la Genèse. Chapitre 32 et verset 24. C'est un texte que vous connaissez bien, parce que le personnage dont il est question, eh bien, c'est quand même quelqu'un qui a pris de la place dans l'histoire de la Bible. Alors vous allez le deviner, vous allez le constater. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, tout simplement, il ne pouvait le vaincre, on peut traduire de cette manière, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point. » « Allez, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Laisse-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Quelle histoire! Pourquoi c'est venu dans la Bible? Pourquoi les choses sont-ils écrites? Finalement, il y a tant d'autres choses. C'est vrai. Mais je pense que c'est un message. Écoutez bien, je n'exagère pas. Fondamental. Et je vous dis fondamental parce que je vous lis simplement un texte de l'apôtre Paul qui vient, parce qu'il n'y a pas de, contradiction. Ce qui est quelque chose, mes frères, c'est Paul qui dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alors, il n'y a pas, en effet, de division entre l'Ancien Testament qui nous raconte ce que nous avons lu et le Nouveau Testament que confirme Paul. La chose importante pour les enfants de Dieu, pour tous les hommes d'ailleurs, c'est d'être une nouvelle créature. Alors on va parler de Job avant sa rencontre, du face-à-face avec Dieu, et on va parler de Jacob lorsque, ce jour-là, il a rencontré Dieu en face. Écoutez bien, c'est un message que j'ai eu l'occasion de donner dans les églises où je suis passé, en 1990. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais ça a toujours été un de mes préférés, parce qu'il y a quand même des choses formidables. Il y a des choses vraiment étonnantes dans tout cela. Alors, il y a beaucoup de, naturellement, d'explications aux questions peut-être qui sont les vôtres. Et une chose qui est importante, c'est que nous allons passer 3 dimanches sur ce texte. Le Jacob d'avant et le Jacob d'après. Alors on va naturellement débuter pour dire que Jacob est un patriarche. Il est devenu plus tard. Mais c'est une personnalité. Ouais, c'est quelqu'un, Jacob. Vous savez, on peut le mettre au rang de David, hein, de tous ces grands hommes de la Bible. Mais vous allez voir que Dieu ne choisit pas les meilleurs. Parce que Jacob, ce n'est pas le meilleur. Ouais. C'est l'homme nature. Hein. C'est l'homme, finalement, charnel. C'est l'homme qui est issu d'une famille de croyants. On pourrait pas dire chrétienne, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais des croyants. Hein. La foi de son père, la foi de toute sa famille. Donc il est croyant, il croit en Dieu. Mais on va voir comment Dieu va chercher un Moïse, comment Dieu va chercher un Jacob, comment il va chercher, eh bien là, tant d'autres. Prophètes, un Paul par exemple. On peut pas dire que Paul avait certainement du sang sur les mains. Hein. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant à plusieurs égards, parce que quelquefois, peut-être certains d'entre vous, et vous êtes peut-être posé la question, mais qui suis-je? J'ai fait tellement de choses dans ma vie. J'ai tellement bousculé les autres. J'ai trompé, j'ai menti, j'ai ceci, j'ai cela. Et pourtant, eh bien, Dieu dit, viens Paul, viens Moïse, viens Jacob, et tu vas voir ce que je suis capable de faire. Parce que ça, c'est la grande doctrine. C'est la théologie du salut. Oui, dans une religion, on n'est pas sauvé par une religion, sinon par des signes, baptême, etc., communion. Et bon, mais dans la suite, le message essentiel de la Bible, y compris l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a naturellement, eh bien, une nouvelle créature qu'on en appelle la nouvelle naissance. Et c'est très intéressant. Retenez ça. Donc, on aura 3 dimanches pour développer, et ça mérite bien peut-être même davantage. Alors, c'est un homme ambigu, c'est un homme, retenez-le, atypique, il n'est pas comme les autres, et il est à la fois, c'est un idéaliste, oui, un sentimental. Et puis, c'est à la fois un homme d'une grande intelligence, parce que tout en bien ou tout en mal. C'est, on pourrait dire aujourd'hui, dans notre langage médical, c'est un psychique. Et dans le langage chrétien, on pourrait dire c'est un pseudo-spirituel. Il a les deux. C'est un homme mélangé. Je voudrais résumer une partie de sa vie, là, dans ce que nous allons voir ce matin et puis les fois prochaines. Alors, si ça vous fait envie, je vous dirai qu'il meurt à 147 ans. Je suis content parce qu'il me reste encore du temps. Mais vous ne le direz pas, hein, parce que si ça s'est déclaré dans les caisses, je ne sais pas comment on va être mangé. Hein. Alors, il meurt à 147 ans, et je souligne ce que j'ai dit tout à l'heure, dans une foi à demi-teinte. Ben oui, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, etc. Je suis un bon garçon, et puis alors, on dit que je suis aussi un mauvais garçon. Donc, demi-teinte. Et il dira, ce qui confirme son âge, il dira, les jours de ma vie errante ont été courts et ils ont été mauvais. Il confessera ça, naturellement, devant Pharaon, hein, il me semble. C'est tout simplement, et bien là, dans l'Ancien Testament et dans d'autres versets. Alors, je voudrais le présenter de cette manière. Jacob, c'est la vie devant soi. Jeune, certainement beau, mais alors quel dynamisme. On va le découvrir. C'est la vie devant soi, c'est l'histoire de Bethel, quand il va être en fuite de chez ses parents parce qu'il a fait une bêtise monstrueuse. C'est Bethel ou le bâton du pèlerin. Vous allez entendre parler de bâton pendant 3 fois. Alors, du bâton, voilà. Il y a quelqu'un qui a une canne? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une canne. Oui. C'est un bâton, hein. Voilà. Mais c'est pour eux. Ça sert à la bonne cause. Hein. Donc, c'est Bethel. Et nous pouvons peut-être le dire, et peut-être le titrer de cette manière. Eh bien, c'est tout simplement la vie devant soi. Il y en a des choses à faire quand on a la vie devant soi. La deuxième chose que nous pouvons ajouter, c'est tout simplement, la vie en soi. Oui, mais pas celle du Saint-Esprit, hein, je peux vous le dire. c'est la vie en soi, c'est-à-dire c'est la vie de l'ego, c'est la chair. C'est tout ce qui plaît, finalement, et qui nourrit, eh bien, notre caractère, eh bien, pécheur, en quelque sorte. Hein. C'est la vie en soi, c'est l'ego, c'est le moi, et on peut dire que c'est le bâton du châtiment. De la vie, comme on l'a dit il y a un instant, c'est encore autrement une autre coloration de la vie, c'est la vie du châtiment, et ça se trouve au verset, au chapitre 32, c'est ce que nous avons lu, tout simplement. La troisième phase, c'est la vie derrière soi. Une devant, une derrière, comme à chacun d'ailleurs. Ouais. Et naturellement, eh bien, il y a certainement à dire. C'est l'Égypte. Vous savez que quand il va vivre tous ces tumultes à un moment donné en raison des problèmes qu'il y a dans tous ces pays du Moyen-Orient, il y en a ce matin-là encore. Hein, donc, la vie derrière soi, et c'est le bâton de l'adoration. Écoutez bien ça. C'est bizarre, hein, parce que ça commence avec, finalement, eh bien là, des caractères assez difficiles, et puis il y a une école, et puis là maintenant on est devant une autre, c'est le bâton de l'adoration. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans le livre des Hébreux, longtemps après cette histoire, il nous est dit ceci, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit Joseph et ses fils, et que Jacob adore Dieu appuyé sur le bout de son bâton. Il n'a plus envie de courir, là, à ce moment-là. Il n'a plus envie de faire des bêtises. Il n'a pas envie de tromper les autres. C'est un homme qui, spirituellement, est pleinement accompli, et Dieu a dû, finalement, passer par les épreuves, par toutes sortes de choses, pour qu'il devienne celui qui va rentrer pour l'éternité, là, auprès de son Dieu, le Dieu de son Père, comme il le dit à un moment donné, eh bien, transformer et changer. Mes frères et sœurs, nous pouvons nous identifier les uns et les autres. Nous avons une vie d'avant, nous avons une vie qui est celle, eh bien, là où Dieu nous traite, comme il a envie de nous traiter, parce qu'il nous prépare à quelque chose de glorieux, adoré, appuyé sur le bout de son bâton. Et ça, c'est quelque chose. C'est dans Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que Jacob, mourant, dont je l'ai dit, eh bien, va découvrir ce que c'est que l'adoration. L'adoration, ça n'a plus rien à voir avec tout le reste de ce que, eh bien, notre communion, notre gratitude et toutes sortes de choses, c'est beaucoup plus haut. Et ça, ça sera pour l'éternité pour nous. Nous adorerons, eh bien là, à travers Christ, nous adorerons notre Dieu créateur, notre Dieu sauveur, celui qui a pardonné nos péchés, qui est mort à notre place. Alors, dans cette explication que nous pouvons donner à ce stade, Bethel, ou le bâton du pèlerin, on revient en arrière, c'est la vie, finalement, eh bien, devant soi. Et sa vie commence tout simplement par une vie de dupe. Ça vous dit quelque chose? Les poils sur les mains? Alors, si vous ne connaissez pas la Bible, lisez-la vite fait. Vous allez voir, parce qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui font sourire, hein. Ah oui, la vie, donc, de dupe. Et parce que il va tromper son père, Isaac, parce que finalement, la bénédiction était réservée à son frère, eh bien là, aîné. Et il va faire un stratagème, à tel point qu'il va avoir la malédiction de son père, quelque part, même si elle n'est pas dite, mais il va avoir la haine qui va lui tomber dessus de la part de son frère, qui s'appelle Ésaü. Voilà, tout simplement. Donc ça commence par une fuite. Il va s'enfuir à Padan Aram, qui est très loin. Il va devoir s'enfuir parce qu'autrement c'est la mort. Hein. Parce que la fureur de Ésaü, son frère, qui l'a trahi d'une manière honteuse, eh bien il va devenir un compagnon, ou un vagabond, plutôt un vagabond pour sauver sa vie. Il va faire qu'il fasse vite. Hein. Sa mère va lui dire, maintenant tu t'en vas, hein. Tu restes plus dans la maison. Hein. Tu as trompé ton père d'une manière tellement grossière. Tu as trahi ton frère, parce que c'est normalement eh bien, le plan de Dieu. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. Eh bien maintenant, il va falloir que... Et il va errer probablement pendant des jours et des jours pour s'enfuir chez son oncle, à Padan Aram, et vous allez voir que c'est truculent. Parce que son oncle, il est trois fois pire que lui. Quelle famille! Quelle famille! Eh oui. Et sa mère, elle ne le reverra plus à partir de ce moment-là, parce que c'était son préféré. N'ayez pas des enfants de préférence. Tous les enfants méritent d'avoir le même amour de la part de ses parents. Parce que quand vous connaissez l'histoire, je peux vous dire qu'après, il y a des larmes. Hein, il y a des torrents de pleurs. On a fait déjà des messages sur cette histoire du favoritisme. Alors, il va partir très loin. Sa mère ne le reverra jamais. Et elle va pleurer tout le reste de sa vie. Hein. Et nous voyons qu'il va vagabonder pour rejoindre eh bien, ce lieu lointain. Il va vivre une aventure de délinquant. Ouais. Il va traîner de droite et gauche, etc., etc. Et bibliquement, vous savez, dans la Bible, il est souvent question, j'en arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, puisque je vous ai parlé, qu'il est question souvent de bâtons. Eh bien, nous voyons qu'il est question de bâtons, le bâton de Pâques, vous savez, devant Moïse, qui ouvre la mer. Il y a également le bâton de la délivrance. Et bien là, celui de la résurrection, quand Élisée va poser son bâton sur l'enfant qui est prétendu mort. Qu'est-ce qui va se passer? Que des miracles. Voilà. Il va y avoir le bâton de la sécurité, le psaume 23. Seigneur, voilà, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Mon bâton est à houlette, eh bien me servent finalement, eh bien pour être que je suis vraiment un berger. Mon bâton est ma houlette. Il y a celui, donc, c'est le bâton de la sécurité, ça, on peut dire. Celui du missionnaire évangélique. Quand il est dit à un moment donné, je vous envoie, prenez vos bâtons. Voilà, prenez, voilà, tout simplement. Et puis, celui de la méchanceté. Le bâton de la méchanceté, c'est quand Jésus va recevoir toutes sortes de sévices. Eh bien, Gethsémané. Et puis, au moment là, devant les rois, devant Pilate, etc., etc. On va le battre, hein, naturellement. Cette période de la vie de Jacob illustre le bâton de l'aveugle. Ça, c'était avant, finalement. Vous savez, quand on n'est pas converti, on est aveugle. Qu'est-ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui? Il vit dans son aveuglement. Mais un aveuglement qui peut être mortel. Ouais, c'est quelque chose... On y va, faut y aller, etc., etc., parce qu'on a tellement, on est tellement épris de justice alors que le monde et les nations sont injustes. Comment voulez-vous que ça marche? Ils rejettent la vérité. Comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est pas possible. Donc, c'est le bâton de l'aveugle qui cherche quelque chose. Vous savez, nous avons, avant notre conversion, mes frères et sœurs, si vous vous en souvenez, on était à chercher quelque chose. À moins d'être un athée fini, hein, ça c'est possible. Mais on avait besoin. On a peut-être été finalement ouvert un petit peu à la recherche dans les religions traditionnelles. Non, on n'en est pas resté là, le Seigneur nous a dit, « Ben maintenant, moi, je vais te conduire plus loin. Je vais t'amener plus loin. » Moi, j'ai toujours dit dans mon témoignage, en résumé, naturellement, moi, le monde dans lequel j'étais élevé, c'était le monde catholique. Et école catholique. Ensuite, j'ai vraiment été appelé à vivre quelques temps, quelques années, dans l'église réformée, l'église protestante. Et ensuite, j'ai découvert le plein évangile. Merci Seigneur de ce que tu t'es fait connaître dans mes premiers temps. Eh bien, que tu m'as fait connaître Dieu. Je savais que Dieu existait, qu'il était. Et puis après, je suis allé dans le monde protestant. Et là, on m'a offert une Bible. Et j'ai vu, non pas un Dieu... Voilà, hypothétique, mais dans lequel je croyais quand même. Mais j'ai su qu'il était dans sa personnalité, dans ce que, véritablement, eh bien, il était créateur, il était sauveur, etc., etc. Et puis quand je suis revenu en France, eh bien là, à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose de formidable. Je suis rentré dans une église évangélique, et là, j'ai entendu le plein évangile, le baptême du Saint-Esprit. Ouais. Alors, vous savez, il y a des étapes comme ça, hein, et c'est formidable, hein. Bâton de l'aveugle qui cherche quelque chose et qui ne trouve pas. Celui qui marche sans savoir ni où il va et ni même ce qu'il veut. Il faut vraiment la lumière de la parole de Dieu pour nous éclairer dans nos cœurs et dans nos âmes. Ah, ça c'est clair. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, moi je parle pour moi là, à ce moment-là. Mais une chose qui s'est passée pour Jacob, qui s'est passée pour moi et certainement pour vous, c'est que à ce moment-là, nous voyons que Dieu a fait des choses grandioses. Parce que, à la fois, quand Dieu met ce sentiment de rechercher ce quelque chose que nous on appelle Jésus, que l'on appelle Dieu, vraiment, dans une vie nouvelle, eh bien, nous nous apercevons que il y a là une action de Dieu. Et nous pouvons dire que Dieu a pris le relais. Dieu a déposé sur Jacob sa providence divine et il conduit maintenant, eh bien, Jacob à Bethel. Il était avec ses parents, il a fui, il a erré, etc. Et Dieu va le conduire à Bethel, par Bethel. Il faut passer par Bethel. Et vous savez ce que ça veut dire, Bethel ? Ça veut dire maison de Dieu. Ouais, Bethel. C'est un beau nom, hein ? Et vous savez, la maison de Dieu, c'est pas seulement un bâtiment, hein ? C'est pas le principal. Non, la maison de Dieu, c'est vous. C'est nous, c'est les uns et les autres. Ça, c'est formidable. C'est là où on est rentré dans une vraie famille. Pas une famille qui se dispute et qui se fait toutes sortes d'entourloupettes, hein, comme avant, pour Jacob. Mais là, une maison où véritablement, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas conduites par un chef, mais qui sont conduites par celui qui est le chef de l'Église. C'est Jésus, hein. Ça, il faut le savoir, hein. Alors, maison de Dieu. Et il va avoir une vision à ce moment-là, il va avoir un éclairage. Et l'éclairage, ça s'appelle la vision de l'échelle, ça vous dit quelque chose ? Oui, vision de l'échelle. Et j'aimerais simplement bien rappeler ça, c'est simplement pour mémoire, hein. Pour nos amis qui peut-être ne connaissent pas, hein, mais vous allez la connaître la Bible à un moment ou un autre, qui sont en train de découvrir. Et au chapitre Genèse, chapitre 28, et au verset 10, je lis pour mémoire, hein, simplement. Jacob partit de Beersheba, c'est là où il était, il a fui, et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu, il passa la nuit, le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Si vous avez une pierre aussi dure que ça, changez, prenez un oreiller, hein, c'est un petit peu plus confortable. Alors, dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu. Et là, il eut un songe. Dieu lui a parlé. Voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Il dit, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Même quand on fait des bêtises, eh bien Dieu continue à nous bénir. Hein. Et c'est pas pour ça qu'il faut faire des bêtises pour être puni, pour être béni. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas. Et j'exécuterai ce que je t'ai dit. Et nous voyons que là, c'est le bâton prophétique. Dans notre vie, nous avons reçu, eh bien, des messages divins, des messages surnaturels pour nous conduire et nous diriger. Ça n'arrive pas tous les jours, hein. Non, c'est même rare. Mais néanmoins, Dieu va nous donner une véritable conviction, peut-être sur avec deux ou trois mots. Ça suffit. Il va pas nous faire un discours, hein. Mais c'est ce qu'on peut appeler le bâton prophétique. Et Dieu, promettant d'être toujours avec Jacob, nous l'avons lu, en lui assurant sa direction, sa sécurité, sa bénédiction. C'est ce qui nous est dit, toujours dans le même passage, et bien là, au verset 16, parce que nous croyons, Père éternel, dans le Père éternel, qui est capable de beaucoup de choses. Jacob connaît un effroi épouvantable avec cette histoire d'échelle. Avec cette histoire où Dieu, il entend Dieu lui promettre des bénédictions. On peut trembler devant des malédictions, et pas devant des bénédictions. Vous savez pourquoi il tremble ? Parce qu'il n'est pas clair dans sa conscience. Il a fait des grosses bêtises, et il dit, comme beaucoup d'entre nous, on croit que, voilà, il y a des choses que l'on fait, et on croit que on est impardonnable, et bien c'est faux. Parce que si nous nous repentons, si nous demandons pardon, et bien Dieu va véritablement nous pardonner. Et souvent, on retient nos péchés, on est là dans la crainte, on ose à peine regarder, vous savez, le ciel comme le pauvre publicain dans le temple de Jérusalem. Alors que nous pensons à l'envers, nous nous trompons, nous pensons, et nous pensons faussement. Et nous voyons que là, dans cette situation, avec ce bâton prophétique, eh bien, Dieu va lui assurer sa direction, Padam Aram, pour l'instant, sa sécurité, ses bénédictions. Jacob connaît un effroi, je l'ai dit, épouvantable. Malgré son tempérament audacieux, Jacob est beaucoup plus vulnérable qu'on le pense. Et vous savez, parmi nous, hommes et femmes, hommes surtout, je vais vous le dire pourquoi, parce que les hommes pensent être toujours les plus forts et les plus beaux et les vainqueurs, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quelque part, eh bien, il est audacieux, mais il n'est pas si audacieux que ça, parce que la fuite, il la prend dans bien des situations. Et je crois que faut faire attention quand on juge quelqu'un, qu'on dit « il est fort », pensez qu'il aura toujours ses faiblesses. Il aura toujours des moments faibles. Et puis Dieu nous connaît parfaitement. Alors, il n'est pas si audacieux que ça. Jacob est même vulnérable, je l'ai dit. Il a peur et il a besoin de Dieu qui, là, à ce moment-là, va l'implorer, Dieu. « Oh, Seigneur, secours-moi, je suis dans une possibilité. Je suis devant des possibilités qui m'effraient. Je suis malheureux, Seigneur. Interviens. » Alors, il découvre, tout simplement, eh bien, que dès qu'il reprend un peu, excusez-moi, du poil de la bête, parce que là, il a peur en ce moment, mais bientôt, quelques jours après ou quelques heures, il va reprendre en quelque sorte eh bien son esprit, son naturel reprend le dessus, et on découvre à ce moment-là encore un personnage sous une autre facette, un personnage de Jacob. Je l'ai dit, il est double, il est rusé, il est combinard, il est calculateur, et il est en train de marchander avec Dieu cette fois-ci. Plus avec son père, plus avec son frère, plus avec sa mère, mais il marchande. Mes frères et sœurs, faites attention à ne pas marchander avec Dieu, parce que Dieu n'est pas un marchand. Parce que ça, c'est un vice. De dire, tu me donnes ça, je te donne ça, etc., etc. Non. C'est pas du commerce. Ou c'est un mauvais commerce, en tous les cas. Et ça ne marchera jamais. Jamais ça ne marche. Alors, il marchande avec Dieu, sans condition, c'est ceci, c'est cela. Et vous allez le découvrir à travers un tout petit mot que je voudrais vous citer. Qu'est-ce que je peux dire? Jacob, c'est un vrai filou. Mais il n'y a pas de... Il n'y a que des faux filous. Et il y a des faux filets. Ce type de transaction dévoile un état d'esprit trompeur, mais son manque d'intégrité d'âme et de cœur. Moi, j'ai eu... On a eu à traiter des problèmes avec des frères et des sœurs, avec même un ou plusieurs pasteurs qui véritablement voulaient nous faire croire à certaines choses. Et prophétiquement, ça s'est passé. La chose qui lui a été dite, tant que tu n'es pas intègre de cœur, ça ne pourra pas marcher. De fait, ça n'a pas marché. Intégrité de cœur. Demandez quand vous priez, demandez à Dieu qu'il vous donne un cœur intègre. Et les routes, ce sera de l'autoroute, vous verrez. Intégrité de cœur. Et vous savez, toutes ces pirouettes, tous ces nœuds et entre-nœuds là, que l'on peut voir chez, en effet, Jacob, eh bien, il n'a jamais été heureux. Il n'a jamais été épanoui. C'est un homme malheureux. Et vous savez, quand on n'a pas cette intégrité de peur, on est malheureux. On est toujours malheureux. On n'est jamais satisfait. On pense sentir avec des combines, mais à chaque fois, ça nous retombe dessus. C'est les gens du monde, hein, c'est comme ça. Hein. Beaucoup de chagrin chez Jacob, beaucoup de désappointement. Et en plus, il s'est payé le luxe, enfin, façon de parler, hein. Il s'est payé le luxe d'avoir la vengeance de ceux qu'il avait précédemment trompés. Ils se sont retombés sur lui. Vous savez, on dit, il y a une expression qui dit lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais il en a bavé, hein, Jacob, parce qu'il avait fait tellement de fourberies, tellement d'entremêlages, de je ne sais pas quoi. Il était connu pour ça, on le connaît encore comme ça. Mais il n'a jamais pu véritablement développer sa vraie personnalité tant qu'il est là, tant qu'il était dans cette situation. Alors, il n'y a rien de surprenant, parce que les choses d'hier, ce sont les choses d'aujourd'hui. L'homme reste toujours l'homme. Il ne change pas. Tant que Jacob a toujours fonctionné dans des demi-vérités, en pensant qu'il allait toujours s'en tirer. On dit un petit peu d'une façon et on dit aussi d'une façon. Et vous remarquerez que c'était un champion du conditionnel. Si. Vous avez vu, c'est marqué si ceci, si cela. Et nous nous apercevons qu'il pourra parler à Dieu dans ses prières, mais qui n'ont aucune valeur. Si Dieu, tu fais ceci pour moi, si tu me donnes cela, si ceci et si cela qui n'en finissent pas, eh bien, à ce moment-là, on va faire un marché ensemble, tout simplement. Attention, tout chrétien mi-psychique, mi-spirituel, type Jacob, s'engage et fonctionne qu'avec des si. Ouais. Et je crois que tout cela est une réalité encore dans notre vie. On achète. Vous savez, on a beaucoup de projets dans cette vie. On peut avoir des projets pour nous, mais c'est pas mauvais. Mais je crois qu'un chrétien devrait dire « Je vais faire ceci, je vais entreprendre cela, etc. » C'est écrit dans Pierre. Vous savez ce qu'il dit ? « Dites plutôt si Dieu le veut. » Voilà. Vous l'utilisez, cette technique-là ?« Si Dieu le veut. » Si tu ne le veux pas, ben Seigneur, tu me donneras autrement, autre chose, et puis on verra. Hein? Si Dieu, et il s'engage avec des si sur les promesses qu'on lui a faites. Oui, mais la promesse, elle va s'avérer, elle va éclore, dans la mesure où nous sommes droits. Et bien sûr, il n'y a pas de problème. Et nous voyons qu'il ne va pas pouvoir avancer parce qu'il met ses intérêts avant tout pour qu'il soit satisfait, qu'il soit réalisé. C'est son bâton de pèlerin. Il est en train de marcher sur un chemin qui n'est pas le bon. On va bientôt aborder la prochaine fois. Eh bien, quand il va avoir le bâton de l'école, de la discipline. Alors, le bâton de pèlerin va le conduire encore en errance dans un autre site. C'est plus Bethel, mais c'est Padan Aram. Ouais. C'est Padan Aram. Et va se retrouver devant son miroir. Le thème que j'ai donné, le titre que j'ai donné, c'est « Jacob et son miroir ». Ça, vous le retrouvez les trois fois. « Jacob et son miroir ». Ah, tiens, ça vous arrive de... Vous regardez, mesdames, vous le regardez assez rarement, le miroir. Hein. Oui. Moi, quand je regarde, je me dis « Alain, qu'est-ce que tu es beau !» Ma femme me dit « Mais oui, mais bien sûr, elle m'encourage !» Mais par contre, elle me fait des réflexions. Quand j'ai... Je ne veux pas en dire plus. Mais elle me... Je le dois quand même. Parce que je suis intègre de cœur. Je ne rien mettre de côté. Oui, voilà. Mais c'est quand je me lève le matin. Voilà. C'est comme si j'avais pris un missile sur la tête. Bon. Ça vous va ? Mais je m'aperçois que vous riez de moi. Eh bien, moi, je vous dis que c'est pas gentil. Oui, parce que la nature du vrai trompeur, eh bien, il revient toujours chez Jacob. Alors, on va aller un peu plus loin et... Ouais. Il va s'écouler à Padan Aram 21 ans de galère. Il va arriver chez son beau-père, qui s'appelle Laban. Et Laban, qu'est-ce qu'il est gentil à l'arrivée ! Magnifique, il est riche. Ah oui, il a, me semble-t-il, deux filles, Rachel et Léa. Oui, ben c'est bien hein, ça. Hein. Moi aussi j'ai deux filles, mais je ne suis pas mariée avec un Jacob. Mais c'est pas moi qui marie. Hein. Voilà. Il va rentrer, il va être donc chez son beau-père, ça va être son oncle d'abord et puis après son beau-père. Voilà. Pendant 21 ans, à garder les troupeaux de son beau-père. Ça va être des chamailleries continuellement. Hein. Ils vont même compter les biquettes noires, les biquettes blanches, et pour compliquer, les biquettes noires et blanches. Vous avez remarqué, ça fait rire, hein, quelquefois. Hein. Mais ce n'était pas possible avec Laban. Hein. Et c'est véritablement la galère. Ce ne sont que pendant 21 années des turpitudes, de la malhonnêteté au service de son beau-père tyrannique, qui est plus fourbe encore que Jacob. Et vous savez, quand on n'est pas droit, quand on n'est pas intègre de cœur, eh bien Dieu, soit en entreprise, dans notre vie sociale, ou voire peut-être même dans l'Église, Dieu va mettre à côté de nous, eh bien quelqu'un qui est pire que nous, pour que nous apprenions, et bien nous regarder nous-mêmes. Ça vous est jamais arrivé dans les affaires ou dans les entreprises? Parce que quelquefois, nous ne sommes pas toujours... Et ce que l'on a fait aux autres, eh bien Dieu va permettre qu'on nous le fasse pour qu'on comprenne. Méfiez-vous, parce que quand on dépasse un petit peu le sentier, eh bien Dieu va permettre que véritablement on rencontre un Laban dans notre vie. Et là, à un moment donné, il ne le supporte plus. Il va prendre ses deux femmes. Et il en avait encore combien de la famille là? Oh, je crois qu'il en avait... Il ne sait pas 12 femmes qu'il avait. Comment? Oh, non, plus que ça. Enfin, c'était des concubines des femmes. Enfin, plutôt, c'était des concubines à lui. Excusez-moi, moi, j'y connais pas grand-chose. Pardonnez-moi. Alors, donc, il va tomber sur quelqu'un qui va être terrible. Et nous voyons qu'il va se dire à un moment donné, je m'en vais. Mais avant de partir, il pique, finalement, l'échelle de son beau-père. Mais c'est pas des cas qu'on aura tous les jours, Vous n'allez pas aller dans un champ prendre les bics de votre voisin fermier. Mais bon, c'est toujours un petit peu comme ça. Alors il va partir et il va connaître donc une phase tourmentée de fuite. Et là, il a l'intention de retourner à Canaan, mais c'est pas encore le moment. Et sur le chemin d'une vieille histoire qu'on croit oubliée, cette vieille histoire qu'on croit oubliée, c'est ce qui s'est passé 21 années plus tôt. Quand véritablement il a trompé son père, il a trompé son frère, Ésaü, et que là voilà, Ésaü qui revient pour lui régler ses comptes. Donc, c'est que des histoires comme ça. Il veut retourner en Canaan. Alors cette vieille histoire peut-être peut nous parler aussi, parce que soudainement son frère fait son apparition, il revient vers Jacob, et il va rencontrer là, à ce moment-là, le bâton du châtiment. On avait parlé du bâton de pèlerin. Là, c'est le bâton du châtiment et bientôt le test va se passer dans un lieu sinistre qu'on appelle tout simplement Péniel. Tout est marqué. Voilà. Notre vie, elle est déjà marquée. Elle est marquée par les lieux, tout simplement. Et vous savez ce que ça veut dire, Péniel? Ça veut dire voir Dieu face à face. Il avait été face à face avec des hommes, avec des membres de sa famille, avec toutes sortes de situations face à face. Mais pour l'instant, il n'avait jamais été face à face avec Dieu, ou Dieu face à face à lui, plutôt. Alors, mes frères et sœurs, il faut être honnête. Il faut que les balances soient véritablement réglées comme Dieu veut les régler. Et n'allons pas croire, que toutes les vieilles casseroles, parce qu'il y en a quelquefois dans les églises, des vieilles catronnes qui traînent depuis 10 ans, 15 ans, etc., et même qui ont suivi la vie d'une église pendant des décennies. Alors, toutes les vieilles casseroles dans lesquelles nous avons fait notre cuisine, c'est-à-dire tout simplement toutes les recettes de notre propre cœur, où nous avons fait la vaisselle des autres, ne sont jamais oubliées. Quelquefois, on n'a jamais demandé pardon. Quelquefois, on n'a jamais demandé ou tenté une réconciliation ou de dire « je me suis trompé, je t'ai fait du mal » ou « tu m'as fait du mal » pour peut-être engager, eh bien là, eh bien, un rétablissement, une guérison. Eh oui, toutes sortes de choses. Toutes les recettes de notre propre cœur, parce que nous avons toujours voulu nettoyer les autres, mais sans nous nettoyer nous-mêmes. Je parle au plan moral, Et nous arrivons, et ça sera la conclusion de cette première partie, nous arrivons à Péniel, et je relis le passage que nous avions entrepris. Il est dit ceci, donc, chapitre 32, 1 à 5, alors que je tourne 32, alors, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, qu'il n'arrive pas à le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève », et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Nous voyons que il y a là, naturellement, eh bien, quelque chose de tout à fait particulier. La justice revient en appel. Eh oui. C'est pas avec tous les tourments qu'il a pu avoir que ça solutionnait les choses, puisque chacun se défendait pour lui-même, comme il pouvait. L'heure des comptes est là. La mauvaise conscience de Jacob tente là l'apaisement en ces mots. Parce qu'il va y avoir la rencontre imminente avant, eh bien, Péniel, avec son frère qui l'attend, au carrefour, au virage, si on peut dire ça, ça. Et il va vouloir apaiser son frère qui vient avec une armée, on le redira la prochaine fois. Hein. Alors, vous direz à mon frère, Ésaü, ainsi parle ton frère Jacob. C'est pas comme ça qu'on se récupère, avec des mots qui sont multipliés, c'est pas ça. Hein. Parce que quand il n'y a pas d'excuses sincères aux offenses, la réparation passe uniquement par la vérité et la justice. Et oui, il faut avoir ce courage. Courage de la justice, et rien de moins. Chercher à effacer nos fautes sans repentance. Ou encore une fois, Jacob offre des cadeaux. J'ai des bœufs, j'ai aussi ceci, j'ai aussi... Alors si tu me laisses tranquille, si tu me tues pas, moi et ma tribu, alors à ce moment-là, je te donnerai des trésors. Mais ça a toujours été la méthode religieuse où on offre à Dieu ceci, on offre à Dieu pour avoir ses bonnes grâces. Et encore aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais ne vous trompez pas, la religion, c'est pas elle qui nous sauve. C'est pas elle qui nous rachète. C'est le sang de Jésus sur la croix du calvaire. Il a tout payé. Alors, nous voyons qu'il va faire le plénipotentiaire. Il va essayer entre son frère et puis son frère Ésaü, qui est venu avec une épée pour le tuer. Mais nous voyons qu'il essaie de négocier tout simplement. Alors l'affrontement avec son frère en fureur approche, et là, à ce moment-là, on le prévient, Ésaü marche à ta rencontre avec 300 hommes. Donc, il n'est pas tout seul, son frère. Il voulait vraiment régler le problème de Jacob. Et puis Jacob, il n'a qu'une petite tribu, lui, tout simplement. Des femmes, des enfants, etc. Quelques peut-être soldats. La réaction de Jacob a été qu'il fut tout très effrayé, et on peut le comprendre, Et il est saisi d'angoisse de devoir être mis à mort par son frère qui va le tuer, lui et sa tribu. On en est là aujourd'hui. Alors, je voudrais terminer simplement sur la prière de Jacob que là, eh bien, nous avons devant cette dernière lecture que j'ai faite il y a un instant. Il est dit ceci, tout simplement, c'est du sauf qui peut. Mais vous savez, quand on est dans une situation où on est dans le sauf qui peut, moi je pense qu'il faut régler les problèmes avec le Seigneur. Mais il va vous aider, il ne va pas vous laisser vous enterrer, il ne va pas vous laisser vous faire écraser, pas du tout. Au chapitre 32, au verset 9, alors bon, c'est tout simplement eh bien, là un texte, vous pouvez le relire, et nous voyons que nous allons avoir besoin de remarquer cette stratégie. Jacob est à ce moment-là encore un magouilleur. J'ai dit des mots qui sont terribles, mais c'est des mots qui sont la réalité dans notre monde aujourd'hui. Alors il va former un plan. Mon frère vient, il va me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui offre ceci, mais il ne va pas se laisser acheter, de toute façon. Il n'en aura même pas besoin, Jacob, de donner. Vous allez voir pourquoi. Il va former un plan, et c'est seulement quand ce plan est prêt qu'il va prier Dieu. Il prie. Il fait ce qu'il doit faire dans son intelligence et ses compositions à lui, et après il va prier. Vous ne croyez pas que ça serait peut-être mieux de prier avant, et puis de savoir comment le Seigneur... Parce que souvent, nous faisons la même chose. Ah oui, on prie. Vous savez, nous sommes en train de vivre quelquefois de certaines situations, ça nous arrive, où, eh bien là, on dit « Seigneur, comme Jacob, si tu me bénis, si tu me gardes, si tu fais si, cela, je te donnerai la dîme de mes revenus, je ferai ceci et cela pour toi. » C'est toujours des si, tout cela. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que on dit au Seigneur, voilà, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour toi. Je suis prêt à te servir, je suis prêt à venir aux réunions, etc. Bon, que vous veniez ou que vous veniez pas, ça change rien pour Dieu, de toute façon. C'est pas un comptabilisateur du nombre dans les églises et tout ça. On peut avoir une toute petite église vivante et remplie du Saint-Esprit et une grande où il n'y a plus rien. Ça, faut le savoir. Alors, il forme son plan, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Mais nous nous apercevons que Après, on dit dans la prière, « Seigneur, voilà, j'ai fait mon plan, et toi, tu bénis mon plan. » Croyez pas que ce serait plutôt une autre logique. « Seigneur, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela, mais en tous les cas, tu passes le premier. Tu passes le premier. » Et c'est pour ça qu'il est dit dans Pierre ou Jacques, je ne me souviens pas, hein, « Dites plutôt, si Dieu le veut. » Et puis après, vous laissez. Vous abandonnez entre les mains de Dieu, c'est lui qui va le faire, parce qu'il n'est peut-être pas d'accord avec tout. Hein. Il n'est pas forcément d'accord avec tout. Mais si vous restez dans son plan en disant, « Seigneur, tu bénis ou tu annules mon plan et tu m'en donnes un autre », mais c'est formidable ça. Parce que Dieu va nous conduire dans d'autres situations. Hein. Voilà. Alors, il prie Dieu et invoque son Dieu, celui-ci, comme le Dieu de mon père, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, etc., etc. Mais vous remarquerez une chose, c'est que Jacob ne dit pas « mon Dieu ». Il est toujours le Dieu des autres, mais pas le sien. « Mon Dieu ». Mes frères et sœurs, quand on prie le Dieu d'Israël. On prie le Dieu de toutes sortes de choses. C'est votre Dieu, vous l'avez reçu, il vous connaît, vous le connaissez, et ce n'est pas le Dieu d'un autre, et des autres, quoi qu'il en soit. Il ne connaît pas encore le nom de son Dieu personnellement, mais seulement toujours celui des autres. Ce Dieu qu'on va chercher quand ça va mal, ça brûle. Hein, je me noie, Seigneur, et quelquefois... Vous savez, j'ai toujours entendu dire, et j'ai pu le dire aussi à certains qui étaient un petit peu rébarbatifs, hein, qui disaient, mais voilà, l'Église elle est ceci, l'Église elle est cela, ça arrive même à des pasteurs de dire ça, hein, il y a ceci et cela, de se plaindre. Mais on se plaint de quoi? C'est déjà une grâce que vous soyez sauvés, c'est déjà une grâce que vous soyez enfants de Dieu, c'est déjà une grâce que vous soyez avec des frères et des sœurs, etc. Mais bien sûr! Bien sûr, au lieu d'avoir... On est comme le monde. Oui, on est comme le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est que, quelque part, en entendant ça, moi, ça m'est arrivé de répliquer, de lui dire, eh bien, tu penses comme ça. Mais tu sais, les problèmes que tu as aujourd'hui, ou les difficultés que tu as de relationnel avec les autres, mais c'est toi qui les as créés de toi-même, et finalement, les gens ont réagi. Il ne m'aime plus. Ben oui, mais ça dépend de ce qu'on a fait avant. Hein. Ouais. Et ça, il faut le penser. Ça, c'est de la pratique, mes frères et sœurs, pour une bonne relation et qu'il n'y ait pas de division. Alors on se plaint de ne pas ceci et cela. Mais moi, j'avais dit à un homme, un jour, je lui dis, mais tu n'as pas compris que quelque part, tout ce que tu vis et qui t'amène à te plaindre et à pleurer sur les autres, à pleurer pour les autres, enfin... De toute façon, vous comprenez, mais toujours est-il que c'est toi qui as créé les éléments, c'est toi qui as créé les raisons de tout cela. Alors tu te plains que ça te revienne. Ben, écoute, hein, maintenant réfléchis bien. Fais la déduction. Ce Dieu qu'on va chercher quand ça va mal, Jacob n'a pas de véritable intimité, de communion et de proximité avec son Dieu. C'est toujours le Dieu des urgences, des dépannages, et toutes sortes de choses semblables, oui, toujours en cas de besoin. Mes frères et sœurs, on va s'arrêter là aujourd'hui. La prochaine fois, on verra tout simplement le bâton de la discipline, et vous allez voir que ça peut changer un Jacob. Ouais. Et c'est pas une punition, c'est pas, nous pourrions dire, un jugement ou une accusation, c'est tout simplement bien l'effet de la grâce de Dieu qui veut nous sauver de nous-mêmes. Merci Seigneur, on va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, c'est vrai, elle est ce qu'elle est, mais en tous les cas, elle est lumière et vérité. Amen. Moi, je te demande, Seigneur, de visiter mes chers frères et chères sœurs. Nous avons fait du parcours ensemble. Nous avons vu tellement et tellement de choses. Nous avons appris tellement de choses. Et nous croyons que ce n'est pas seulement les autres qui doivent apprendre, mais moi, personnellement, eh bien, j'apprends aussi. J'apprends encore, parce que la leçon pour tes créatures, pour tes enfants, tes fils et tes filles, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur à un autre. Peut-être à divers niveaux, naturellement, et divers niveaux d'évolution de notre vie spirituelle. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu nous as parlé, tu nous parles avec un Jacob. Parce que ce qui est formidable, eh bien c'est exactement ce que nous retrouvons dans le fils prodigue, qui n'est pas rejeté par son père, mais qui est véritablement étreint par son père, qui l'embrasse et qui l'accueille. Alors nous te remercions. Tu n'es pas venu chercher, eh bien, des hommes parfaits. Tu n'es pas venu chercher des pharisiens, Seigneur, qui, pour eux, tout le reste du monde était vraiment mauvais. Il n'y a qu'eux qui étaient bons, eux qui étaient bien. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il y a de belles histoires dans la Bible. Et nous savons, Seigneur, que tu as toujours tendu la main à ceux qui, même si au fond de leur cœur, étaient profondément, eh bien là, des hommes de la chair, tu peux en faire des hommes de l'esprit. Merci Jésus. Amen.